Troisième lecture tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, fin de l'Évangile. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter la finale de l'Évangile selon Matthieu. Nous allons suivre pas à pas ce récit qui raconte, et c'est la seule fois dans l'Évangile de Matthieu qui raconte la réapparition de Jésus, donc après sa résurrection. Mais j'introduis ce cheminement par une précision qui va me permettre d'évoquer le statut de notre récit du jour et aussi une de ses formules clés. Il est fort probable que cette finale soit un ajout postérieur à la rédaction principale du texte, donc un additif, un ajout qu'on appellera ecclésiastique. Pourquoi ? Parce qu'on se fonde sur le fait qu'on trouve ici la trace, vous l'avez entendu, de la liturgie trinitaire du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans notre version à nous, dans notre traduction à nous. Cette formule, qu'on voit bien qu'elle est constituée dans notre passage, n'existait évidemment pas du temps du ministère du Christ, mais elle s'est répandue pendant que commençait à se développer le nouveau concept de Trinité. Je rappelle que ce n'est pas parce que dans les évangiles on parle ici et là du Père, on le sait que Jésus parle de Dieu familièrement ou familialement, qu'on y parle aussi évidemment du Fils, en l'occurrence majoritairement du Fils de l'homme, et qu'on y parle dans ces évangiles de l'Esprit-Saint, de ce souffle sacré que l'on reçoit au moment du baptême, ou ce souffle qui pousse Jésus dans le désert pour aller subir son épreuve, ce n'est pas parce que ces trois mots évoquant Dieu sous divers angles existent dans l'Évangile que la notion particulière, interactive, tripersonnelle de la Trinité existe aussi dans ces évangiles. Non, pour le dire autrement, et là, je me situe à la bord d'un précipice parce que je vais faire une blague. Si on avait parlé à Jésus de la Trinité et que ce même Jésus parlait anglais, il aurait dit « What ?» Voilà, fin de la blague. Dorénavant, j'annonce. En tout cas, peut-être que vous allez le retenir, parce que c'est important pour moi que vous le reteniez. À part que Jésus ne parlait pas anglais, probablement. Cette notion de Trinité a eu du mal à se développer. L'emploi même de la formule trinitaire a sans doute précédé la fine élaboration de ce concept qui a fasciné les théologiens. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure dans la lecture que la nouvelle Bible Second ose traduire « pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » au lieu de notre traditionnel « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Peut-être tout simplement pour réintroduire du mouvement qui est signifié par le mot grec, qui pourrait se traduire aussi par « dans le nom du Père », mais ce « pour » ajoute quelque chose d'inattendu. Peut-être l'idée que le baptême doit s'administrer pour que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit peut-être enfin révélé. Voilà, je ne reviendrai pas dans la suite de ce message sur cette partie de la phrase. C'est la fin de mon introduction et c'est le début du texte maintenant. Vous l'avez noté, il reste 11 disciples. Ce chiffre, 11, frères et sœurs, m'a très tôt fasciné. Non pas uniquement parce que les nombres sont fascinants en soi, je sais pas pour vous, mais pour moi, oui, mais déjà parce que la première mise en scène de l'Église, de cette proto-Église, est celle qui montre une Église tronquée, explicitement imparfaite. Et je pourrais donc, si j'en avais envie, produire ici une entière prédication sur ce chiffre, développée sur cette envie au long des âges qu'a eu l'Église d'être parfaite, de s'y croire, d'être complète, d'être le miroir du royaume, alors qu'au départ, elle était tronquée. Mais en allant plus loin sur ce nombre, je constate qu'il s'agit d'un nombre premier. On connaît la caractéristique des nombres premiers, c'est qu'ils ne peuvent être divisés que par eux-mêmes et par le chiffre 1, pour que le produit reste un nombre entier. Une église qui ne peut être divisée que par elle-même, métaphoriquement, ça me parle. Une église qui ne peut être divisée que par le chiffre 1, c'est-à-dire par un Dieu qui s'énerverait contre elle éventuellement, ça me fait un peu rêver aussi. Et on ne peut pas diviser en fractions, parce que là, il s'agit d'humains, évidemment, on ne pourra pas imaginer un Matthieu 5 ou un Barthélemy 15. Je mets un peu de temps après ce genre de trait pour éviter que vous vous fixiez là-dessus. Cette indivisibilité en groupes égaux n'aurait pas été effective si les disciples étaient restés 12. Ils auraient pu aisément se fractionner en parties égales, 12, ils auraient pu se répartir le monde par groupe de 4, par groupe de 3, par groupe de 6, par groupe de 2. Mais 11, c'est impossible. Il va donc falloir rester compact et ne pas déjà s'imaginer des majorités, des minorités, des succursales et des chapelles. C'est un symbole d'unité et de non-séparation qui est proclamé en cette finale de Matthieu, une église 11, comme ça que j'ai envie de la nommer, une église 11. Bien sûr, le message n'a pas été entendu, car on l'apprendra par la suite dans le Nouveau Testament, le 12e manquant sera remplacé, et de fait, l'histoire de l'église pourrait s'écrire uniquement sous l'angle de ses divisions, on le sait bien, de ses minorités et de ses majorités. Ensuite, pour quitter cette numérologie bizarre, dans notre récit, nous allons repérer quelque chose d'assez drôle. Les disciples voient Jésus et ils se prosternent. Très bien. Mais on lit dans la même phrase que certains ont des doutes. Ce qui sous-entend que prosternés, ils ont des doutes. Certains en tout cas, parmi eux. Apparemment, déjà, malgré la beauté primale du chiffre 11, on pourrait voir à ce moment-là un début de désagrégation. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est le doute malgré la prosternation. Je ne sais pas vous, mais je pense que si je devais un jour me prosterner, je le ferais justement parce que je n'aurais aucun doute. Sauf si j'étais obligé, bien sûr. Comme un client dans une banque, victime d'un hold-up, ce qui n'arrive jamais aujourd'hui, les braquages se font sur Internet, qui est obligé de se prosterner malgré les doutes qui, sans doute, évidemment, on le comprend, l'assaillent en ce moment précis de l'attaque. Mais quittons la banque et réfléchissons à une certaine forme de pratique en forme de mouvement, de congratulation liturgique, de génuflexion, ou même de chant, ou que sais-je, qui finalement, cette pratique permettrait de douter en même temps. Non pas favoriserait le doute, mais l'emballerait dans autre chose. Une pratique physique, rituelle, qui finalement contient, assume, permet la possibilité de garder le doute. Je me demande si c'est l'équivalent du boire sans soif, ou si c'est finalement plutôt une bonne chose pour justement n'être pas assailli, voire dévoré par le doute, pour protéger le doute nécessaire et en même temps pouvoir abonder dans la signification de notre reconnaissance. Les protestants qui n'ont que peu de rituels, on le sait, sont sûrement plus démunis face à la corrosion du doute. La pratique rituelle serait un baume recouvrant, voire préventif ou curatif. Je vois ce doute encapsulé dans le geste comme l'appel au maintien de la conscience au travers d'une obligation quelconque. Une façon aussi plus générale de dire qu'il ne sera pas possible d'enfermer quelqu'un complètement dans un comportement et que malgré l'apparence de soumission qu'il offre, ce comportement, il reste en lui un peu de lumière, un peu de mouvement mental qui ira peut-être le guider un jour vers un relèvement. Ensuite, notre texte. Le texte de Matthieu dit que Jésus s'approche d'eux. Probablement pour atténuer le doute particulier à l'intérieur du crâne de certains disciples prosternés, parce que je le rappelle, celui-ci, Jésus, était mort, et le voilà qui se promène. Le doute s'amoindrit. Oui, effectivement, de près, c'est bien lui. Lui, Jésus, le réveillé d'entre les morts. Là où moi, en tant qu'interprète, je n'ai pas de doute, c'est sur le fait que l'écrivain fait mention du doute des disciples parce qu'il sait que les lecteurs de son passage vont probablement douter de la possibilité de réapparition d'un mort. Même les disciples doutent, semble dire l'écrivain de ce passage, même les disciples doutent, chers lecteurs, vous voyez bien que vous aussi, votre doute est compris d'avance. Pour dire au lecteur qu'il est normal qu'eux aussi doutent, et il y a de quoi. Mais leur dire aussi, en même temps, à ces lecteurs, que laisser Jésus s'approcher est un bon moyen de sortir de cette désagréable sensation, vous savez, d'un espoir réalisé, mais quand même peut-être illusoire, la pire des sensations. Sortir de cette sensation d'un mirage qui, par principe, s'éloigne quand on veut s'en rapprocher, tel un horizon attirant, mais peut-être fictif. La pire des sensations. Dans notre récit, c'est le prétendu mirage qui s'approche, pour signifier qu'il n'en est pas un. Et la preuve en est subtile, que 50 ans après, c'est-à-dire dans la temporalité de la diffusion de cet évangile, dans la temporalité du lectorat de ce passage, ce Jésus s'approche encore dans la prédication, dans la proclamation, dans les textes, et qu'il n'arrête pas de s'approcher au point presque de nous faire croire que nous sommes nous-mêmes le mirage qui s'éloignerait de lui. C'est un comble, hein ? Et plus de 2000 ans après, c'est pareil. La résurrection du Christ administre, d'une certaine manière, sa preuve par sa persistance dans l'histoire et par cette incommensurable envie d'en reparler. Pour préconclure cette petite marche dans ce texte très célèbre, on va noter aussi cette autorité qui a été conférée, dit Jésus, à lui-même, dans le ciel et sur la terre. Ce qui est un pendant musical à la formule du Notre Père qu'on ne trouve que dans l'évangile de Matthieu, sous cette forme, que ta volonté se fasse sur la terre, sous-entendu comme elle se fait au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et qui rend consistant cette bonne nouvelle qui n'est pas qu'une pilule qui irait nous transporter au ciel, mais qui va concerner l'ici, non pas l'ici-bas, mais l'ici même, et l'ici et maintenant. Et enfin, on va trouver satisfaisante, à propos de maintenant, justement, et de maintenance et de main tenue, tenante, cette affirmation, cette promesse de Jésus qu'il ne va pas nous lâcher, qui n'est plus simplement, rappelez-vous, cette ironique « je suis » ou « je suis qui je suis » du buisson ardent qui s'amuse avec l'entendement d'un Moïse, mais qu'il est devenu le « je suis avec vous » jusqu'à la fin du monde. En résumé, je vais formuler une prière. Que cette Église imparfaite, sans doute, mais du coup condamnée à être solidaire, qu'elle le reste, ou qu'elle le devienne, ou qu'elle le redevienne. Qu'elle trouve une bonne pratique qui lui permettra de continuer à célébrer sans que la corrosion du doute ne se fasse trop forte, mais qu'elle garde le doute comme un gardien, qu'elle garde sa conscience pour éviter de trop s'identifier à elle-même, de trop s'admirer dans sa perfection présumée. Qu'elle puisse aussi laisser celui dont elle parle s'approcher d'elle et non pas l'éloigner à coup de concept. Qu'elle fasse, avec l'aide de celui-ci, ce qu'elle doit faire, donc, dit le texte, baptiser pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et pour que ces noms adviennent au plus grand nombre jusqu'à la fin du monde. Mais la question qui va rester en suspens sera celle-ci. Et après la fin du monde, je suis avec vous, sera-t-il toujours avec nous? Ou à ce moment-là, existera-t-il une autre économie du rapport entre l'humain et son Dieu, entre le monde, le cosmos, en grec, dans le texte, entre le cosmos et son créateur? Cet accompagnement de « je suis avec vous », cet accompagnement-là sera-t-il encore nécessaire lorsque même, si c'est impossible à comprendre maintenant, tout sera accompli et que nous ne serons plus condamnés à rester des enfants. Amen.